richesse, la commune, aimée, c'est la porte.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, il est effectivement l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Alors, tu te souviens, Mathieu, que lors de la campagne des élections présidentielles récentes, le thème majeur qui est sorti, finalement, c'était pas le réchauffement climatique, c'était pas l'immigration, c'était le pouvoir d'achat.
Ouais.
Et c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y avait un problème qui était en train de pointer, c'est l'inflation.
Ouais.
Donc, on va parler d'inflation, Mathieu.
Très bien.
Et mine de rien, c'est la troisième chronique en 2 ans où on va parler de l'inflation. Alors, je vais mettre en lien les deux précédentes parce que je vais les résumer et on ne peut pas répéter en détail ce que j'y avais dit. Dans la première chronique, on avait expliqué ce qu'est l'inflation. C'est une augmentation des prix des biens et services qui nous fait perdre du pouvoir d'achat. L'argent que nous possédons nous permet d'acheter moins de biens qu'un an avant. Pardon ?
C'est quand le prix des choses augmente, mais pas forcément les revenus.
Ouais. Bah oui, c'est-à-dire les 100 euros que tu as en poche te permettent d'acheter certains biens, mais l'année d'après, comme les prix ont augmenté, bah les biens que tu pouvais acheter l'année précédente avec 100 euros, tu peux plus.
Okay.
Donc ton argent a perdu du pouvoir d'achat.
D'accord.
On avait aussi expliqué les causes principales de l'inflation. On avait vu que l'explication officielle de la science économique orthodoxe et des banques centrales, c'est le fait qu'il y a trop d'argent en circulation par rapport aux biens disponibles et que ça cause l'inflation. Le problème, c'est qu'on a vu que cette explication, elle avait du plomb dans l'aile. Et qu'il valait mieux s'intéresser à d'autres causes de l'inflation, notamment l'inflation par la demande. Quand un bien ou un service a un grand succès, la demande est importante, elle excède l'offre et ça fait une augmentation des prix. Parce que les gens en profitent, on se dit ben, on va augmenter les prix puisqu'il y a une demande forte. On avait vu aussi l'inflation importée des biens, des services, des composants, des matériaux, des matières premières, de l'énergie, tout ce que tu veux, sont importés de l'étranger, mais voient leur prix augmenter. Et ces prix sont répercutés sur les prix de nos biens et services à nous. Ça, c'est l'inflation importée. On avait aussi remarqué qu'on n'avait jamais eu vraiment de problème sérieux d'inflation depuis la création de l'euro en 1999. Et au contraire, depuis 2010, on avait bien été plus menacé par la déflation, la baisse des prix, que par l'inflation. Ça, c'était la première chronique. Lors de notre deuxième chronique, en septembre 2021, plus récemment, nous avions vu un début de redémarrage de l'inflation. 3% d'inflation en zone euro, 5% aux États-Unis. Pardon, excusez-moi. On s'était dit que les plans de relance vigoureux semblaient être à l'origine de ce redémarrage, assez modéré quand même. Mais on avait aussi pointé l'augmentation déjà des prix de l'énergie à cette époque, septembre 2021, et la vigueur du redémarrage économique de 2021 après l'anus horribilis de 2020. T'as vu, je place du latin, je suis trop fort. Donc ça, c'est l'inflation par la demande. La reprise, c'est forte, la demande est forte. Mais bon, on avait indiqué que l'inflation ne devenait vraiment un problème que quand on surgissait ce qu'on appelait des enchaînements de second tour, c'est-à-dire des augmentations de salaire provoquées par les augmentations des prix, ce qui augmentera à nouveau les prix, etc., dans une spirale auto-entretenue. C'est ça, les enchaînements de second tour. Et à l'époque, septembre 2021, on ne les voyait pas venir. Donc, les économistes restaient optimistes. Bon, nous voilà aujourd'hui en juin 2022, mon gars. Il s'est passé un petit événement géopolitique, un petit peu important quand même, entre-temps, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet événement a violemment renforcé deux tendances qu'on a déjà citées. L'augmentation des prix de l'énergie et celle de divers matériaux, composants, etc. Par exemple, les semi-conducteurs, on avait fait une chronique là-dessus. Cette augmentation de tous ces matériaux subissait déjà l'effet pénurie, inflation par la demande qu'on vient d'expliquer. Donc ça, c'est encore renforcé. D'accord ? Résultat. Et bien, résultat, à fin mars 2022, l'inflation annuelle en France est de 4,8%. À fin mai, c'est-à-dire actuellement, elle est passée déjà à 5,2%. Pour rappel, donc, elle n'était que de 3% en septembre 2021. Aux États-Unis, l'inflation était de 5% en septembre 2021. Elle est désormais au-delà de 8%. Et puis, pour information, en Allemagne, c'est 7,3%. La moyenne de la zone euro, c'est 7,5%. Et cette tendance devrait continuer à se renforcer. Pas d'accalmie en vue au niveau de l'inflation. Si on entre un peu dans le détail, histoire de s'intéresser à l'impact sur notre pouvoir d'achat, eh bien, on s'aperçoit que les produits alimentaires sont pour l'instant dans la moyenne de 5% environ, mais avec une tendance à l'accélération de l'augmentation des prix. Il y a déjà une pointe sur certains produits alimentaires. Les huiles, les légumes, les poissons, les pâtes et farines, tout ça, c'est entre 9 et 15% d'inflation et c'est qu'un début.
Ouais.
D'accord ? Bon, évidemment, il y a aussi l'énergie. Alors là, ça fait très mal. Augmentation moyenne sur un an de 25% des prix de l'énergie. Bon, le constat est fait. Que peut-on faire face à ça ? Alors, en théorie, ce sont les banques centrales qui sont chargées de lutter contre l'inflation. Comment ? Eh bien, en augmentant leur taux directeur. Le taux directeur, c'est quoi ? Petit rappel, ce sont les taux que les banques centrales facturent aux banques commerciales quand elles leur fournissent des liquidités. Évidemment, les banques commerciales répercutent ce taux quand elles prêtent de l'argent à vous et moi, les particuliers et les entreprises, à des taux donc plus ou moins élevés. Comme les banques commerciales créent de la monnaie quand elles nous font des prêts, ça augmente la masse monétaire. Donc, si les banques centrales augmentent les taux directeurs, ça va augmenter les taux que les banques commerciales nous font à nous quand elles nous prêtent de l'argent. Donc, il y aura moins de prêts accordés parce que ça va être moins intéressant avec des taux plus élevés. Donc, il y aura moins de création monétaire. Ça, c'est le raisonnement qui fait dire, si on augmente les taux directeurs, on va diminuer l'inflation. C'est la théorie dont j'ai parlé au début et dont j'ai dit qu'elle avait du plomb dans l'aile. Ouais. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop si ça va marcher, si ça va être efficace. À voir. Hein. En tout cas, une chose qui est sûre, deux choses qui sont sûres, c'est que cette théorie-là, cette technique-là qui consiste à augmenter les taux, n'a aucun effet sur l'inflation importée. Aucun effet. Donc déjà, on sait que ça ne marchera pas. Or, il y a une grande partie de l'inflation qui est de l'inflation importée. Deuxième chose, on sait que cette augmentation des taux directeurs a une conséquence, elle ralentit l'activité et donc la croissance. Et elle augmente les risques de récession. Voilà. Tout en sachant qu'on n'est pas sûr qu'il y aura de l'effet sur l'inflation. Mmh. Tiens, bah ça, figure-toi que ça va rappeler quelque chose aux plus anciens d'entre nous, c'est-à-dire pas toi, hein, plutôt les gens de ma génération. Années 70, cocktail d'inflation et de récession, on avait appelé ça la stagflation. Eh bien, on se demande si on n'est pas en train de revenir vers la stagflation, c'est-à-dire vers un mélange d'inflation et de stagnation ou de récession économique. C'est pour ça que pour l'instant, les banques centrales, ils vont mollo sur la remontée des taux, parce qu'elles ont très peur de tomber là-dedans. Elles craignent une nouvelle récession. D'accord ? Alors pour l'instant, il n'y a eu que deux petites augmentations des taux aux États-Unis, hein, par la Banque centrale américaine, la Fed, et aucune augmentation des taux côté Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne s'est contentée d'expliquer que son programme de quantitative easing va bientôt arriver à son terme. Pour ceux qui voudraient savoir ce qu'est le quantitative easing, on avait fait une chronique le 7 octobre dernier. Je vais la mettre en lien aussi, comme ça vous saurez tout. Bon, bref, tout ça, c'est pas très certain, quoi. Donc, quelle perspective pour l'avenir ? Eh bien, les marchés financiers sont plutôt optimistes. Ils sont sur des anticipations modérées. Hein. Ils pensent qu'on va revenir à la normale après les petits chaos actuels et que les prix d'énergie se stabiliseront au niveau assez élevé, mais ils commencent déjà à se stabiliser au niveau actuel. Puis les risques d'augmentation de salaire et d'effet de second tour, pour l'instant, selon les marchés financiers, c'est assez faible. Donc, quand même, des prévisions plutôt optimistes de la part des marchés financiers et d'un certain nombre d'économistes. Et là, devine quoi ? Je vais casser l'ambiance, parce que je vais parler de prévisions un petit peu au-delà du court terme, et je vais utiliser une chronique d'Olivier Passet, de Xerfi Canal, l'économiste de Xerfi Canal, qui, lui, voit les choses autrement. Et il nous pose trois axes pour remettre en cause l'optimisme des analystes. Premier axe, la crise actuelle, nous dit-il, est aussi un révélateur. Révélateur que nous n'avons pas su réduire le moins du monde notre dépendance aux énergies fossiles. La tragicomédie autour de notre dépendance au gaz et au pétrole russe et comment trouver des alternatives en est la preuve. Et ça, dit Olivier Passet, ça pourrait être le foyer de hausse future et continue des prix de l'énergie. Deuxième axe, nous sommes entrés dans une période de diminution inexorable de la main-d'œuvre en âge de travailler, 15-64 ans, parce qu'on vieillit. Ouais. Ça, dans tous les pays de l'OCDE et même dans le monde entier. On va voir des tensions pour pouvoir pourvoir tous les postes apparaître. Et on a déjà le commencement de ces tensions, des difficultés de recrutement. On en voit des signes partout dans les pays occidentaux, même en France. Et ça, ça pourrait bien rééquilibrer le rapport de force entre les salariés et les employeurs. Ce rapport de force est depuis 30 ans en faveur des employeurs. Ça pourrait redonner de la marge de manœuvre en termes de négociation aux salariés. Ça pourrait provoquer des augmentations de salaire et donc des effets de second tour et donc renforcer l'inflation. Troisième point. La mondialisation depuis 40 ans, depuis les années 80, a amené la montée en puissance de groupes très importants, des oligopoles, des groupes qui ont un pouvoir de marché important, une capacité d'imposer leurs conditions au marché. La conséquence, c'est très simple, hein, c'est que certains n'hésitent pas à augmenter leurs prix pour répercuter les hausses des coûts, parce qu'ils se sentent assez puissants pour ne pas être menacés par la concurrence. Résultat, ça se fait aussi de l'inflation. D'accord ? Donc, conclusion de tout ça, il se pourrait bien que nous soyons entrés dans une période d'inflation soutenue durable, avec les effets sur le pouvoir d'achat qu'on connaît, c'est-à-dire renier le pouvoir d'achat, avec les tensions politiques que ça génère. tension autour de la contestation. Moi, j'ai mon pouvoir d'achat qui baisse, etc., etc. Voilà un petit peu ce qui nous attend dans les mois et les années à venir. J'en ai terminé. Mathieu.
Très bien. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.